France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau débat. Et aujourd'hui, nous sommes dans la peau d'une Française moyenne. Elle possède un iPhone, elle stocke ses photos sur le cloud, elle se sert de WhatsApp pour envoyer des messages, perd son temps sur Instagram, commande ses achats sur Amazon, utilise ChatGPT pour le boulot, mais ça, elle préfère ne pas trop en parler. Cette jeune femme est-elle devenue ce que de nombreux experts appellent désormais une esclave du techno-féodalisme américain ? Si oui, elle n'est pas la seule. Google détient 90% du marché de la recherche en ligne dans l'Union européenne. Facebook réunit 1 milliard d'utilisateurs de par le monde. Et ces données sont l'or noir du 21e siècle. Quel risque cela pose-t-il pour la souveraineté française ? Souvenez-vous, en février dernier, l'administration de Donald Trump avait menacé l'Ukraine de suspendre son accès à l'opérateur satellitaire Starlink, indispensable à son armée. Quid d'une Europe où tout d'un coup, d'un claquement de doigts, les États-Unis couperaient ses technologies ? Alors, le pire n'est pas toujours certain, évidemment, mais faut-il s'en prémunir ? Comment regagner notre liberté à une ère où le digital a pris le pas sur la société ? Faire vivre la French Tech ? Prendre le virage de l'intelligence artificielle, la France, colonie numérique des États-Unis, on en débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Paola Puerari.
Et pour ce débat sur notre souveraineté numérique, vous êtes déjà très nombreux à nous écrire justement sur le WhatsApp de France Inter au 01 45 24 7000. Arnaud nous écrit « L'Europe est au Moyen-Âge de l'ère technologique, on peut parler des nouveaux seigneurs du web » et Juliette se veut optimiste. Nous avons des champions français comme Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI, figure montante de l'intelligence artificielle, et Isabelle s'est enregistrée au 01 44 25 7000.
Modestement, j'utilise Quant, le moteur de recherche français, depuis plusieurs années, aussi bien à la maison qu'au boulot. C'est effectivement modeste, mais c'est ma petite pierre à l'édifice.
Et si vous voulez faire comme Isabelle, vous nous envoyez des notes vocales sur le WhatsApp de France Inter 01 45 24 7000. Ce débat, c'est le vôtre. Faites entendre votre voix et surtout posez des questions puisque nous avons la chance de recevoir ce matin Clara Chapaz dans ce studio. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Paola Puerari.
Ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle, du numérique, vous avez lancé au début du mois le plan Oser l'IA, qui est censé impulser un tournant. Combien de millions d'euros, on espère, sont mobilisés pour ce plan ?
C'est 200 millions d'euros pour faire quelque chose de très important. Je pense qu'on reviendra sur cette question de l'utilisation de nos technologies. L'IA, c'est un formidable levier de progrès, mais encore faut-il l'utiliser et surtout utiliser nos entreprises françaises, européennes, qui sont nombreuses et très performantes.
Nos entreprises françaises. Bonjour David Jays.
Bonjour.
Essayiste, chef d'entreprise, directeur du cabinet de conseil Ascen Partners. Vous avez cofondé un indice de souveraineté numérique.
C'est un résilience genre de, numérique.
De résilience numérique. Alors, c'est un genre de Nutri-Score, de Numériscore, ça s'appelle comment ?
Alors, ça s'appelle l'indice de résilience numérique ou l'IRN. C'est un peu plus sophistiqué qu'un Nutri-Score, mais l'idée, c'est que les entreprises puissent avoir une vision complète de toute leur dépendance, de toute leur vulnérabilité numérique sur toute la chaîne, parce qu'on n'utilise pas que des logiciels, il y a aussi du cloud, il y a aussi des serveurs, il y a aussi des données, et tout ça constitue le numérique.
Et nous sommes en ligne avec le docteur Laurent Alexandre, chirurgien urologue, fondateur de Doctissimo. Dernier ouvrage paru, ChatGPT va nous rendre immortels aux éditions. Gilles Célatès qui sera avec nous une partie de cette émission. Alors on pose d'abord le constat avec vous, Madame la Ministre. Est-ce que la France est devenue une colonie numérique américaine ?
Non, moi je refuse ce fatalisme, bien évidemment. On est en fait dans un moment de bascule extrêmement intéressant. Parce que le simple fait qu'on ait ce débat aujourd'hui, ici, à France Inter, montre bien qu'on est dans une prise de conscience que, en effet, vous l'avez dit avec la jeune fille que vous décriviez tout à l'heure, quand on ouvre son téléphone et que, par exemple, on cherche où sont les studios de France Inter, ben, on va certainement utiliser un téléphone américain, aller sur un moteur de recherche américain, aller du coup ensuite sur une application pour voir où est l'adresse qui est aussi certainement américaine, en tout cas dans beaucoup, beaucoup de cas. Et ça, on commence à se rendre compte que peut-être c'est un problème. Mmh. Et c'est pour ça que je pense que cette opportunité-là, de se rendre compte que c'est un problème, quand on est une entreprise avec le travail qui est fait, notamment avec cet indice de résilience numérique, quand on est un citoyen, quand on est, comme vous, journaliste, ça nous permet de nous dire, nous refusons d'être une colonie numérique parce que derrière, on a, et d'ailleurs depuis 2017, avec le président de la République, investi dans le fait de créer des alternatives qui ont été parfois peut-être un peu mal compris, ces questions des start-up. Qu'est-ce que c'est une start-up ? Au fond, c'est une entreprise qui crée des solutions d'innovation technologique dont on a besoin pour pouvoir retrouver notre indépendance, notre liberté.
David Jayes, vous reprenez ce terme de colonie numérique ?
D'une certaine manière, oui, parce que on est totalement dépendant. Regardez, au moment du Covid, on a passé nos journées sur Netflix, sur Amazon, sur Apple. C'est très intéressant de regarder à partir de votre compte en banque, combien d'argent partent sur les plateformes américaines. C'est parfois un quart du salaire. Vous imaginez, donc c'est un quart du salaire que vous percevez en France qui part sur des plateformes américaines. Et quand on regarde les entreprises, là je parlais des citoyens, je parle maintenant des entreprises, qu'est-ce qu'on découvre ? Il y a récemment un rapport qui a été fait pour le CIGREF, le club des directeurs des systèmes d'information. On découvre que 265 milliards d'euros chaque année quittent l'Europe pour aller aux États-Unis pour des solutions informatiques et des solutions numériques. Tous les jours, on parle du déficit commercial français. On dit la France a 190 milliards d'euros de déficit commercial. Tous les jours, on parle du déficit énergétique européen. On dit la France est dépendante des énergies fossiles qui sont extraites dans le Golfe, aux États-Unis, etc. Qui parle du déficit numérique ? Donc il est temps effectivement de poser ces questions. Et poser ces questions, ça veut dire déjà donner des chiffres et pouvoir objectiver la réalité. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec cet indice de résilience numérique dans les entreprises, mais il faut aussi, et je crois que c'est ce que vous avez essayé de faire, Madame la Ministre, avec l'Observatoire de la souveraineté numérique, il faut qu'on puisse le faire au niveau national et au niveau européen.
Alors, restons un tout petit peu sur ce constat. Clara Chapaz, on entend ce refus d'être une colonie numérique. Vous, vous dites oui un peu. Posons la question à Laurent Alexandre, qui est souvent, voilà, peut-être un petit peu accusé d'être un peu pessimiste. Laurent Alexandre, j'imagine que vous m'entendez. Vous, je crois que vous avez une expression, vous dites la France ou l'Europe, tiers monde du digital. C'est ça ? Si vous aviez, par exemple, à nous donner une époque, on est à quel âge de maturité numérique, Laurent Alexandre ?
On a 15 ans à 25 ans de retard sur la Californie, sur les États-Unis. Nous avons raté toutes les révolutions technologiques depuis 1995. On s'est obstiné à croire au Minitel quand Internet est arrivé. On a détruit notre industrie du téléphone portable. Il faut savoir qu'en 2007, lorsque sort l'iPhone, l'Europe est de très 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 loin le premier producteur mondial de téléphone portable. Le seul Nokia représentant 55% du marché mondial du téléphone. On pourrait multiplier les exemples. Nous n'avons pas compris que c'était une industrie qui nécessitait beaucoup de capitaux. Nous avons sous-investi. Nous n'avons pas vu les enjeux. Et pour ne prendre qu'un exemple, en matière de cloud computing, qui est un élément important dans la chaîne de valeur numérique, il est illusoire de penser qu'on va rattraper d'un claquement de doigts les Américains quand on pense qu'Amazon dépense en recherche et développement. Le seul Amazon dépense 100 milliards de dollars par an, c'est-à-dire plusieurs dizaines de fois le budget du CNRS. Donc nous avons un immense retard. Nous pouvons sortir de notre statut de colonisé numérique, mais il ne faut pas se tromper. Ça va pas se faire en 6 mois. Il faut que l'Europe travaille très très dur. Il faut que la France travaille très très dur pendant 20 à 30 ans pour que nous rattrapions notre retard qui aujourd'hui est absolument immense. Il faut pas se tromper. La marche est très 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 haute et nous n'investissons pas assez alors que les géants du numérique et de l'intelligence artificielle californienne investissent chaque année des centaines et des centaines de milliards.
Clara Chapaz, comment est-ce qu'on fait, sachant que le gouvernement a galéré, si je puis dire, à trouver 44 milliards d'économies, comment est-ce qu'on trouve ces centaines de milliards pour pouvoir ne pas louper le virage et effectivement rattraper notre retard ?
Oui, peut-être, en fait, la situation, le contexte dans lequel on est, il est très justement posé. Je pense que ça, cette prise de conscience-là, elle est fondamentale pour toute action, parce que si on ne s'en rend pas compte de ce problème-là, on ne peut pas faire grand-chose, et d'où le fait d'ailleurs de mesurer, c'est très important, on y reviendra. Comment est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on a fait depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est-à-dire que on prend nos responsabilités sur le contexte budgétaire. Le Premier ministre, je crois, l'a fait de façon très claire la semaine dernière. Mais en disant deux choses, en disant D'un côté, stop la dette, mais de l'autre, en avant la production. Et en avant la production, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme finalement dans toute famille, quand on a des difficultés budgétaires qui sont les nôtres, il faut qu'on réagisse, qu'on dépense moins sur les dépenses de fonctionnement de la famille. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir dépenser autant qu'on le faisait sur son budget quotidien. Mais pour autant, quand on est un pays comme la France, ça ne veut pas dire qu'on investit moins dans l'avenir. Parce que c'est l'avenir, l'innovation, la technologie qui est le projet finalement de tout ça derrière. Et qui nous permet de pouvoir avoir une voie économique, mais pas que. Parce que ces questions de technologie, d'innovation, on le voit bien dans tous les exemples que vous avez donnés, ce ne sont plus seulement des outils et des entreprises économiques derrière, et 263 milliards d'investissements en cloud, en hébergement des données, mais c'est aussi des entreprises qui aujourd'hui ont un impact culturel sur notre façon de voir le monde. Quand on, pendant le Covid, passe un peu de temps sur Netflix, quand on fait ses courses sur Amazon, quand on interagit avec ChatGPT, toutes ces entreprises-là viennent avec une vision du monde qui n'est pas la vision européenne. Donc, on fait des efforts, mais on garantit quelque chose qui a été très fort dans le projet depuis 2017, de dire il faut investir dans l'innovation, on continue de le faire. France 2030, c'est 54 milliards d'euros investis dans l'innovation pour créer ces champions de demain. Et on mesure la marche qui est très haute, mais je refuse le fatalisme parce qu'aujourd'hui, sur toutes les technologies les plus critiques pour notre avenir, l'intelligence artificielle, donc cette technologie que vous avez peut-être dans votre quotidien quand vous interagissez avec une application qui vous permet de donner un certain nombre de réponses, cette technologie que les chercheurs utilisent pour faire accélérer la recherche de médicaments. Quand on pense au quantique, c'est
pas de fatalisme, on l'entend tout à fait.
On a des entreprises aujourd'hui à la pointe de l'innovation.
Alors, pas de fatalisme, et néanmoins, il faut prendre conscience du risque pour la souveraineté française, pour la menace de notre pays, le risque avec tous ces bouleversements géopolitiques, avec l'arrivée de notre Donald Trump, évidemment. Je voulais vous faire écouter une audition qui a eu lieu au Sénat le mois dernier. Il s'agit d'Anton Carnio, qui est directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France, qui est donc auditionné, et on lui demande si les données des Français hébergés en Europe pourraient tomber aux mains du gouvernement américain. Alors, on cuisine un peu, le rapporteur le cuisine, et regardez ce qu'il finit par répondre.
Êtes-vous personnellement prêt à garantir, sous serment, devant cette commission, que ces données françaises confiées à Microsoft par l'UGAP ne seront jamais transmises, sous injonction du gouvernement américain, sans l'accord explicite des autorités françaises ?
Non, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas le garantir, mais aujourd'hui, ce n'est pas arrivé.
Aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. David Jayce, quel est le risque justement d'avoir toutes ces données, toute notre souveraineté aux mains des États-Unis quand on sait un peu l'instabilité, si je puis dire, de Donald Trump ?
Le risque est maximal. Il y a une législation qui s'appelle le Cloud Act qui dit c'est l'extraterritorialité du droit américain. Même si vos données sont stockées en Europe, mais qu'elles sont opérées par un opérateur américain, eh bien, si le gouvernement américain en fait la demande, il peut y accéder. Donc le risque est maximal. Et je vais vous dire une chose, on est dans un moment de guerre commerciale. Vous avez vu que Donald Trump a annoncé 30% de droits de douane sur l'Europe. Quelles sont les mesures de rétorsion dont dispose l'Europe ? Vous savez, les États-Unis, ce n'est pas une très grande puissance manufacturière. L'Europe, elle est exportatrice vers les États-Unis en termes de marchandises. Les mesures de rétorsion, c'est quoi ? C'est les services financiers et surtout, c'est la tech. Donc on entre dans une zone de turbulence extrême qui nous oblige, et moi je rejoins ce que disait Laurent Alexandre, on a effectivement raté toutes les grandes révolutions technologiques liées au digital. Il faut qu'on fasse un rattrapage accéléré et on ne le fera pas en deux minutes, ça va nécessiter énormément de travail, mais si on loupe la prochaine marche, qui est celle de l'IA, on va se tiers-mondiser pour une raison très simple, c'est que on est dans une révolution industrielle. Le pétrole ou le charbon de cette révolution industrielle, c'est la data. Et les machines-outils de cette révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle, c'est les technologies d'IA. À chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, les cartes sont rebattues entre les nations, entre les individus. Si on n'est pas capable d'être propriétaire d'un minimum de ces outils et de ces moteurs, on va devenir des économies bananières. C'est exactement
des économies bananières. Oui. Vous voyez qu'on y va. Colonie numérique, tiers mondialisation digitale, économie bananière. Laurent Alexandre, est-ce que ça vous inquiète aussi, comme David Jayce, de savoir qu'effectivement notre souveraineté numérique est aux mains des États-Unis ? Et si on avait à faire le scénario du pire, qu'est-ce qu'il pourrait se passer ? On se souvient que l'administration de Donald Trump avait failli couper effectivement Starlink, ce réseau satellitaire à l'Ukraine. Est-ce que ça pourrait un jour nous arriver. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait.
L'Europe est un castrat numérique. L'Europe est un castrat technologique. Et il y a un consensus sur le plateau pour dire que nous avons raté toutes les révolutions technologiques depuis 1995. Toutes. Donc partant de ce constat, effectivement, nous sommes extrêmement dépendants des gens qui développent les outils de la prochaine révolution technologique, notamment autour du cloud et puis de l'intelligence artificielle. Donc ce constat, il est partagé. Pour le changer, il faut une vision de long terme, on l'a dit et vos invités l'ont dit, et puis il faut beaucoup d'argent. Le problème que nous avons en Europe, c'est que nous n'avons pas de pognon, nous n'avons pas d'argent. Or, les Américains sont en train d'investir des centaines de milliards dans la technologie d'intelligence artificielle. Et où est-ce qu'ils vont chercher le pognon ? Avec les bénéfices immenses que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Elon Musk, Nvidia ont. Parce que ces entreprises qui contrôlent aujourd'hui l'Internet sont des vaches à lait qui crachent des centaines et des centaines de milliards de bénéfices chaque année. Et ce sont ces centaines de milliards de bénéfices qu'ils réinvestissent pour contrôler l'intelligence artificielle des prochaines années. Or, en Europe, nous n'avons pas ces géants du numérique. Et donc, nous n'avons pas les centaines de milliards de bénéfices qu'ils ont et qu'ils investissent pour fabriquer l'intelligence artificielle.
Alors, vous posez très clairement le serpent se mord la queue, mais vous posez très clairement, effectivement, l'enjeu du débat qui va continuer sur France Inter, puisqu'on va se demander, eh bien, dans ces cas-là, s'il faut, pour trouver ce pognon de dingue, consommer français. Comme on achète, par exemple, du miel tricolore pour soutenir son pays, est-ce qu'on doit quitter Google pour aller sur le moteur de recherche Quant ? Est-ce qu'il faut favoriser le Made in France, la French Tech ? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices ? Parce que peut-être que ces sites ou ces outils ne sont pas aussi performants. Vous réfléchissez et on revient pour chercher du pognon juste après Benjamin Biolay avant de tomber sur France Inter.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, de beauté. Ça valait le coup d'en finir. Y'en a même certains que ça fera rire, et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillés, belle persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez. Voix de départ et voix d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler. Mes yeux la fait sur mon berceau, qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai pas grand chose à vous dire. Yeah.
23 sur France Inter. On continue à débattre dans ce studio. On se demande si l'Europe est devenue une colonie numérique, le tiers-monde du digital, voire même un castrat numérique. Comment regagner notre souveraineté, notre liberté? On en débat avec la ministre Clara Chapaz, le chef d'entreprise David Jayes et le docteur Laurent Alexandre, spécialiste de l'intelligence artificielle. Et vous êtes déjà très nombreux à nous écrire sur le WhatsApp de France Inter au 01 45 24 7000. Pierre nous dit, mais pourquoi les sites français sont si nuls? Grégoire nous dit, tous nos contenus culturels sont désormais hébergés sur YouTube, à commencer aussi par ceux de France Inter. Isa nous dit, quand Skype s'est arrêté, j'ai cherché une plateforme européenne, mais je me suis rabattue sur Zoom. Et Thibault s'est enregistré sur le WhatsApp de France Inter.
Pour ma part, j'utilise un moteur de recherche qui est français et qui est surtout solidaire, c'est Lilo. Ça veut dire qu'à chaque recherche que j'effectue, il y a des gouttes d'eau qui sont collectées et qui correspondent à de l'argent qui sera versé à l'association humanitaire ou l'association, l'ONG que je choisis.
Merci, merci Thibault pour cette réaction sur le WhatsApp de France Inter. Alors je vous pose la question, on va regarder tout de suite vos téléphones portables et les onglets des applications. Clara Chapaz, est-ce que vous avez des applications françaises ou est-ce que effectivement votre consommation numérique est américaine?
J'ai bien sûr le chat de Mistral pour faire de l'IA.
L'agent conversationnel, le chat de Mistral AI. Et vous, David Jayes, faites-nous un petit topo là quand même pour montrer l'hégémonie américaine.
J'ai un peu honte parce que moi j'ai Apple TV, WhatsApp, Instagram, Facebook, mais j'ai quand même Le Monde et Le Figaro qui sont des applications françaises et Air France.
Ah bon, c'est pas mal. Alors Laurent Alexandre, vous êtes en ligne avec nous. Est-ce que vous conseillez effectivement de pousser l'État et les Français à consommer français, à télécharger par exemple l'agent conversationnel Mistral AI, ou est-ce que ça sert à rien et on continue à consommer américain par exemple?
Non, il faut se battre pour développer des applications européennes et françaises en particulier. Mais il faut qu'elles soient au niveau des applications californiennes. Quand j'entends qu'il faut remplacer Google par Quant, excusez-moi, mais il faut être masochiste pour utiliser Quant. Il faut être masochiste. Il faut pas seulement être nationaliste et patriote. Il faut être masochiste parce que Quant n'est pas un bon moteur et il est 100 fois moins bon que Google. Et on perd énormément de temps quand on utilise un mauvais moteur par rapport à un bon moteur. Donc oui au nationalisme technologique et je suis pour la défense de l'Europe et de la France en matière technologie pour sortir de notre colonisation. Mais il faut pas que les produits qu'on développe en France soient merdiques. Or, il y a un certain nombre d'applications qui sont très 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 loin d'égaler les applicatifs californiens. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne marchent pas et qu'ils ne sont pas utilisés, parce que ce sont des sous-produits. Donc on ne peut pas utiliser des produits français dignes du Minitel en 2025. Il faut investir davantage pour que les produits numériques européens soient à la hauteur de la Californie. Et malheureusement, on en est très 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 loin.
Clara Chapaz, est-ce qu'il faut favoriser le Made in Europe? Par exemple, moi, quand j'allume mon ordinateur à Radio France, donc à la maison de la radio, sur le service public, bah, qu'est-ce qui s'ouvre? Il y a Windows, il y a Office. Est-ce qu'il faut au moins, eh bien, je ne sais pas, installer Quant, même si Laurent Alexandre le compare au Minitel. Est-ce qu'il faut pousser à consommer français?
Oui, bien sûr, et ça, je pense que je l'assume complètement. Mais là où je rejoins Laurent Alexandre, c'est que on ne va pas tout rattraper d'un coup en quelques mois. Mais par contre, il y a un certain nombre de technologies sur lesquelles on est là. On est au niveau. Et je veux revenir sur un certain nombre de choses qu'il a dit. Je pense bien sûr à l'intelligence artificielle. On n'a pas d'argent. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait on a cet argent, on a d'ailleurs plus d'épargne en Europe qu'aux États-Unis si on prend toute la quantité d'épargne, mais aujourd'hui elle n'est pas utilisée, mobilisée pour aller soutenir le développement de nos entreprises, elle n'est pas mobilisée vers cette innovation, et c'est bien là tout le projet, c'est de dire pour créer des alternatives, il faut... hier, j'étais par exemple dans une entreprise qui s'appelle Exotrail. Exotrail, c'est quoi? C'est des chercheurs du CNRS qui ont développé une technologie unique au monde pour pouvoir, dans le spatial, donc un secteur hautement stratégique, créer des petits moteurs de propulsion beaucoup plus petits pour avoir des petits satellites derrière. Et ben, ils ne sont pas seulement restés dans leur labo à faire cette technologie, ils ont trouvé l'audace de se lancer et aujourd'hui les financements pour accélérer. C'est ça toute la stratégie industrielle qu'on doit avoir sur un certain nombre de technologies sur lesquelles il est encore temps d'avancer très vite et sur lesquelles on a des champions.
Alors, il faut avoir de l'audace, mais il faut aussi avoir les mains libres. Est-ce que finalement,
l'Europe, il n'y a pas trop de freins à la créativité, David Jay, ça débat ça aussi.
Vous avez parlé tout à l'heure de pognon, effectivement il faut du pognon public et privé pour créer ces filières, mais je pense que la clé c'est le culturel. Quand j'étais à New York il y a quelques semaines, dans une conférence sur l'adoption de l'IA par les grandes entreprises américaines, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que dans ces boîtes, les PDG des compagnies aériennes, des compagnies de télécom, des grands médias, ils tombent dans les bras avec les fondateurs de la tech californienne, parce qu'ils se connaissent, parce qu'il y a une intimité qui est créée entre les deux. En France, malheureusement, encore aujourd'hui, trop de grands dirigeants d'entreprise voient l'informatique soit comme un truc platonicien, c'est-à-dire des idées qui flottent dans le ciel, alors que l'informatique, c'est profondément physique, il y a des infrastructures, c'est industriel. Et les usines digitales, aujourd'hui, elles sont aux États-Unis. Nos usines manufacturières sont en Chine et nos usines digitales sont aux États-Unis. Ou alors, ils voient ça comme de la plomberie. Et ils disent, tiens, on va demander au DSI de raccorder deux tuyaux parce que là, il y a une fuite. Ou alors, ah, il nous coûte cher avec ces... Mais les entreprises, elles dépensent des centaines de millions d'euros chaque année dans les systèmes d'information. Donc, il faut changer le rapport des dirigeants d'entreprise aussi à la tech, tout simplement parce que si on dit que l'IA est au cœur de la révolution industrielle, la tech est le moteur industriel de cette nouvelle révolution. Et si on veut le contrôler, il faut que les entreprises créent leur propre culture. Et il y a des boîtes en France, je pense à Ouest France, je pense au Crédit Mutuel, je pense à la Maïf, il y en a plein d'autres, qui ont une vraie doctrine de l'usage de la tech. Eh bien, si on arrive à sensibiliser et à acculturer au maximum les chefs d'entreprise à qu'est-ce que c'est que une vraie stratégie pour leur technologie d'entreprise, eh bien, on pourra faire émerger une vraie filière européenne.
Mais Laurent Alexandre, est-ce que ce moteur, justement, n'est pas bridé en Europe ?
Ben si, il est bridé en Europe pour deux raisons. C'est que, un, l'AI Act européen est beaucoup trop dur et il complique énormément la vie des entreprises. C'est pour ça qu'il y a des entreprises comme Airbus qui commencent à faire leur développement d'intelligence artificielle hors de l'Europe, tellement la législation européenne sur l'intelligence artificielle est castratrice et suicidaire pour l'Europe. Et puis, les dirigeants politiques, je ne parle pas de Madame la Ministre, mais la plupart des dirigeants politiques ne s'intéressent pas à la tech. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai écrit une tribune dans le journal des Dimanches avec Alexandre Tsikopoulos demandant que les candidats à la présidentielle qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle renoncent à se présenter en 2027 parce que on a besoin de dirigeants qui comprennent la tech. C'est le cas de Madame la Ministre, mais c'est pas le cas de beaucoup des candidats à la future présidentielle, malheureusement.
Est-ce que vous êtes sûr, Clara Chapès, que tous les ministres du gouvernement ont bien ChatGPT sur leur téléphone portable et qu'ils se sont essayés à l'intelligence artificielle ?
Alors, si je fais bien mon travail, j'espère qu'ils ont plutôt Mistral.
Mistral, l'agent conversationnel français.
Je pense qu'on est à un moment très intéressant où, justement, ce n'est pas seulement comprendre la technologie qui est important, mais c'est bien de comprendre qu'il y a un enjeu politique derrière. Ce n'est pas un truc de geek de Silicon Valley, l'IA. Ça ne doit absolument pas l'être. La vision que tous les dirigeants politiques doivent avoir, et la vision est peut-être un peu le rôle qu'elle met aujourd'hui, contrairement à 10, 15 ans, le ministre du numérique en France, son rôle c'était de dire il faut faire de la tech, il faut faire du digital, on est en retard, on n'est pas digitalisé, on fait encore trop sur papier, on n'a pas tous les processus technologiques que peuvent avoir certains autres pays. Aujourd'hui, on est dans un moment plus compliqué, mais beaucoup plus intéressant. Un peu comme, je me permets d'essayer ce parallèle, on a dit pendant longtemps, on a commencé à dire ça il y a maintenant 30, 35 ans, pour être en bonne santé, il faut manger plus équilibré, il faut manger des fruits et légumes. Et puis, très rapidement, on s'est posé la question, mais de quels fruits et légumes on parle ? Est-ce que, en fait, en mangeant des fruits et légumes, on ne doit pas aller un peu plus loin et se dire, mais comment il est produit, le fruit et légume en question ? Est-ce qu'il soutient l'agriculture française ? Et toutes ces questions-là sont venues. Et on est exactement à ce moment-là dans le numérique. Mon rôle, c'est pas seulement de dire « faites du numérique, le numérique c'est génial, ça va permettre de gagner plein de temps, de faire ceci, cela », mais de dire « mais comment on le fait ? Comment on fait ce numérique ? Quelles sont les implications de faire du numérique ? Est-ce qu'on le fait avec des entreprises françaises, européennes ? Est-ce qu'on le fait en s'assurant qu'on est protégé ? La question des données, tout à l'heure. Et c'est ce moment de bascule-là, qui est un moment de bascule très culturel, qui fait que le numérique ne doit absolument pas rester un truc de geek, mais bien être un enjeu politique grand public dans lequel, je suis complètement d'accord, les responsables politiques doivent tous s'intéresser. Et je veux rassurer Laurent Alexandre, aujourd'hui, quand je travaille avec tous mes collègues sur l'implication de l'IA dans leur ministères respectifs. J'étais avec Gérald Darmanin à la justice il y a quelques semaines, j'étais avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot aussi, il y a quelques semaines. Ils ont bien compris que l'IA va tellement changer la manière de travailler, mais qu'en plus, dans la manière dont nous allons décider de le déployer, il y a beaucoup plus que les gains technologie derrière, qu'ils sont très intéressés à avancer, mais à avancer avec ce projet-là.
Laurent Alexandre, j'espère que vous êtes rassuré par les propos de Clara Chapaz. Elle va veiller à ce que tous les ministres aient bien téléchargé le chat de Mistral AI. On vous libère, Laurent Alexandre. Merci. Si vous voulez aller plus loin, je conseille de lire votre livre. ChatGPT va vous rendre immortel aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va s'intéresser justement aux données personnelles des auditeurs. Parce que oui, il y a toutes ces questions effectivement macroéconomiques, de la sécurité, de la souveraineté. Mais il y a aussi de savoir si vos données personnelles, qui sont stockées peut-être dans un cloud américain, sont bien en sécurité. Plus d'un tiers des Français a des photos intimes dans son téléphone portable. Imaginez, une amie vous prend en photo cet été, topless, seins nus sur la plage. Vous pensez votre photo en sécurité dans votre téléphone, mais elle se retrouve sur Internet car eh bien, votre cloud, votre bibliothèque de sauvegarde de données a été piratée. Votre vie privée est-elle vraiment en sécurité? On en débat juste après Girl Band de Haïm, dont We be rowing sur Inter. Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight, you can't talk me out of it. Midi 37 sur France Inter, vous êtes bien dans le débat de midi, on débat, on se demande si l'Europe est devenue une colonie numérique et comment regagner notre souveraineté avec la ministre du numérique Clara Chapaz et le chef d'entreprise David Jayce. Vous êtes très nombreux à nous écrire comme quoi vous êtes plus moderne qu'on ne le pense. Jean-Pierre nous dit, il ne faut pas oublier que c'est un ingénieur français qui a inventé Siri, nous ne sommes pas si nuls que ça. Et oui Jean-Pierre, Isabelle nous dit aussi, le retard européen n'est pas dû aux valeurs morales et aux garde-fous qui sont mis en balance des nouvelles technologies, il y a un point d'interrogation. On va se poser la question évidemment. Et Léo écrit aussi sur le WhatsApp de France Inter 01 45 24 7000. Les alternatives aux géants américains existent. Seulement, le modèle économie virtuellement gratuit introduit par Google puis Facebook est imbattable. Effectivement, c'est une question. Je vous donne ce chiffre pour relancer le débat. Près de 4 Français sur 10 ont peur de se faire pirater des photos intimes. Nous sommes en ligne avec Rachel Flore, Pardo, avocate, activiste et cofondatrice de l'association Stop Ficha, qui lutte contre les cyberviolences sexistes et sexuelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire des photos de nus qui se retrouvent sur Internet. Et on imagine souvent un petit ami malveillant publier un jour une photo. Mais le danger, Rachel Flore, c'est aussi de se faire pirater. Est-ce que vous pouvez prendre un cas concret pour bien qu'on comprenne ce qui peut arriver?
Oui, absolument. En fait, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant le revenge porn. Donc cette appellation, elle est erronée. Elle laisse penser que ce serait en effet que l'ex qui se vengerait d'une rupture qui serait susceptible de diffuser des images à caractère sexuel. Mais c'est pas du tout le cas. Moi, je vois dans les dossiers que je traite au quotidien qu'il y a en réalité de nombreuses victimes de piratage qui se retrouvent confrontées à ces phénomènes de diffusion parfois massive d'images intimes, d'images sexuelles. Et c'est des faits pour lesquels on a beaucoup de mal au niveau de la justice à apporter une réponse satisfaisante. On n'arrive pas finalement à réparer celles et ceux qui en sont victimes. On n'arrive pas encore aujourd'hui aussi à garantir que ces images ne seront plus à nouveau diffusées, même après une condamnation pénale.
Alors, on parle de photos qui sont sur le téléphone, mais aussi de photos qui ne sont plus sur le téléphone, qui ont été supprimées, qui étaient dans la corbeille, mais qui se retrouvent, eh bien, dans ce qu'on appelle ce nuage américain, ce cloud. Ça veut dire que toutes nos données, nos conversations secrètes, nos messages qu'on a effacés, on peut le retrouver, ils sont quelque part piratables.
C'est une possibilité. En fait, ça rejoint les problèmes d'éducation, notamment des adultes, au risque numérique, puisqu'on parle souvent de la sensibilisation des enfants, moins des adultes. Et pourtant, je ne crois pas qu'on soit les meilleurs exemples sur comment on protège tous, chacun ici, nos données personnelles sur nos téléphones et sur nos ordinateurs. Et c'est aussi la problématique de toutes ces terminologies erronées. Quand on parle de conversations privées, de canaux privés sur Telegram, par exemple, en réalité, on se rend assez vite compte que ces espaces n'ont rien de vraiment privé.
Merci Rachel Flore Pardo. Je signale donc votre association Stop Ficha, car si certains auditeurs ou auditrices ont été victimes d'un piratage, eh bien ils peuvent se tourner vers vous. Clara Chapaz, est-ce que ça changerait quelque chose si on avait par exemple une bibliothèque de sauvegarde de données, c'est-à-dire un cloud français? Est-ce qu'on serait plus souverain? Est-ce qu'on serait moins piratable?
Oui, en fait, ça me permet d'aborder deux choses, cette question. La première, c'est que, d'ailleurs, c'était le petit passage sur l'audition pour ceux qui nous écoutaient déjà à ce moment-là. Oui, aujourd'hui, de par les lois extraterritoriales américaines, quand on met des informations sur un hébergeur de données américain, l'hébergeur américain ne peut pas garantir qu'il ne donnera pas ses données, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un citoyen. C'est comme ça que sont les lois actuelles. Et c'est pourquoi, en France, on a pris un choix très fort de protection, qui a été de dire, avec notre Agence nationale de cybersécurité, on va créer un label, disons, qui permettra d'auditer les solutions d'hébergeurs de données et de dire, s'il remplit toutes ces conditions, moi je suis allée en voir une OVH Cloud à Roubaix, les serveurs sont carrément dans une pièce séparée.
Alors,
que je
OVH
n'ai même pas
Cloud,
pu voir.
OVH Cloud, Benjamin Revkolevski, qui a fondé donc OVH Cloud, donc cette bibliothèque de sauvegarde de données française, nous a laissé un message.
Il y a un contexte mondial aujourd'hui, il y a des tensions géopolitiques, il y a une incertitude. En effet, souvent le cloud il n'est pas fourni par des entreprises européennes et pourtant, il faut tout faire pour garder la main aujourd'hui sur nos données et nos services en Europe. Les alternatives, elles existent, OVH Cloud en est la preuve. Et donc je dis à tous les chefs d'entreprise, venez voir ce qu'on peut faire pour vous.
Venez voir, il dit aux entreprises, effectivement, allez-y.
Et donc moi, je suis allée voir. Et donc, on rentre chez OVH Cloud, donc c'est à Roubaix. C'est une magnifique aventure industrielle, OVH Cloud, fondée par Octave Clabat, il y a maintenant un certain nombre d'années. Et donc, dans cette partie très sécurisée, donc garantie par notre Agence nationale de cybersécurité, on ne peut même pas rentrer. Donc, je n'ai pas pu voir à quoi ressemblaient ces serveurs. Et donc, il y a plein de règles comme ça autour pour garantir la sécurité maximale de ces données. Et on est allé plus loin, on s'est dit, les données sensibles publiques des Français doivent être hébergées sur ce type de serveur parce que c'est une question de sécurité. On a pris du coup ces décisions très fermes parce qu'il y a un vrai risque derrière. Et ça me permet de faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par Laurent Alexandre sur la régulation. Cette idée que l'Europe impose un certain nombre de régulations, que ça ralentit l'innovation, qu'on entend beaucoup. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que l'Europe qui régule, l'Europe qui protège dans un certain nombre de cas, le petite musique qui consiste à dire que ça nous freine est aussi une musique qui est positif pour un certain nombre d'acteurs qui ont envie de dénigrer notre capacité européenne à faire de l'innovation. Quand il parlait de l'IA Act, par exemple, tout à l'heure, le règlement sur l'intelligence artificielle qui ralentirait les entreprises. Aujourd'hui, ce règlement, il pose un certain nombre, et ça rebondit aussi sur le message que vous avez eu par WhatsApp d'une des auditrices, il pose un certain nombre de principes, de valeurs que l'on veut que les intelligences artificielles européennes respectent, mais il ne vient pas freiner l'innovation. Il vient juste dire quelque chose, par exemple, de très simple. On ne veut pas d'une intelligence artificielle qui utiliserait toutes les informations qu'ils ont là sur nous dans cette salle pour nous donner une note.
Ça régule, mais ça freine aussi. Par exemple, on voit bien qu'il y a énormément de chercheurs français qui partent aux États-Unis et peut-être effectivement où là, il y a une telle dérégulation que ça crée énormément de dangers, mais en même temps énormément d'innovation, David Jayes.
Oui, alors après, on parle beaucoup de souveraineté. Moi, je ne voudrais pas qu'on tombe non plus dans le souverainisme. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de lancer avec la résilience numérique, ce n'est pas un pistolet braqué sur les éditeurs américains. C'est juste de donner aux boîtes et aux citoyens aussi le choix et la possibilité de desserrer les taux. Mais vous savez, il y a des fournisseurs de solutions européens. Je pense à SAP, par exemple, qui est un fournisseur allemand, qui crée des situations de dépendance aussi dans les entreprises. Le sujet, c'est vraiment, est-ce qu'on arrive à avoir une vision stratégique de la tech ? Les citoyens doivent pouvoir avoir le choix. Donc, ils doivent pouvoir comprendre les algorithmes, ils doivent pouvoir avoir des alternatives, mais les entreprises aussi. Et c'est ça le grand chantier politique qui est devant nous.
De prendre conscience, ça sera le mot de la fin.
Et d'ailleurs, le sujet, c'est aussi d'embarquer ces acteurs du numérique internationaux avec qui on veut bien sûr travailler, mais les embarquer dans notre vision, nos valeurs. Par exemple, c'est une entreprise comme Microsoft que beaucoup connaissent, qui va décider, parce qu'on est un pays attractif pour l'innovation, d'investir des milliards en France pour déployer ces solutions, mais déployer des solutions justement à nos valeurs. Et donc aujourd'hui, ils ont créé une autre entreprise avec Capgemini et Orange qui s'appelle Bleu. Et donc, ils vont permettre et nous permettre, la France, de développer une offre qu'on appelle protectrice, souveraine, d'hébergement de données. Et donc, on voit bien qu'ils sont attirés ici en France. Ils investissent, mais au service de nos projets, qui est d'avoir ces solutions d'hébergement de données sécurisées. C'est ça, finalement, le projet technologique derrière. C'est de dire, on veut créer des alternatives françaises, comme OVH sur le cloud. On veut attirer les meilleurs pour qu'ils s'embarquent dans notre projet. Et on veut, et je reviens sur ce qui a été dit très justement plusieurs fois par David Jayes, accélérer cette prise de conscience que quand on est un chef d'entreprise, il faut qu'on comprenne nos dépendances et qu'on choisisse de façon décidée quelles dépendances on accepte, quelles dépendances on n'accepte pas, comment on se diversifie pour avoir le numérique comme un outil de pilotage stratégique comme n'importe quelle autre politique dans une entreprise ou une administration.
Eh bien, merci pour cette prise de conscience qui nous a tous réveillés. Merci Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. David Jayes, je rappelle votre indice de résilience numérique, l'IRN, pour mesurer les dépendances des entreprises aux technologies étrangères. Erwan nous écrit sur l'application France Inter, la vraie liberté, c'est d'être totalement déconnecté, Erwan. Eh bien écoutez, vous avez bien de la chance parce que nous, on est malheureusement trop connectés. Mais on va peut-être se couper pendant les vacances. Bref, le débat de midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à mon équipe. Aurore Mansip, Johan Duval, nos stagiaires Anne Balista et Ryan Saibi. À la réalisation, c'était Riyad Kera. La programmation musicale, Valentine Chedebois. Et à la technique aujourd'hui, c'était Rémi Sistiaga.